Voilà, nous lisons l'évangile et après l'évangile, nous faisons une méditation. La méditation que nous faisons le samedi est une méditation qui cherche à expliquer comment on fait pour rentrer dans la prière. Donc, pendant toute l'année, nous avons regardé jusqu'à la dernière fois, la fois précédente, comment on faisait pour rentrer à l'intérieur des secrets du livre de l'Apocalypse. Et puis la dernière fois, donc nous avons commencé le thème de notre méditation de l'été, que nous faisons une fois par semaine. Et il s'agit de savoir comment on fait pour rentrer dans le secret de la prière. La prière est un secret. Et la dernière fois, qu'est-ce que nous avions regardé? Nous avions simplement expliqué une chose qui n'est pas si évidente que ça en vérité, même si elle est parfaitement simple, c'est qu'est-ce que c'était que le regard simple vers Dieu. Pour savoir ce que c'est que le regard simple vers Dieu, je ne vais pas reprendre ce qu'on a dit la dernière fois, mais quand même, il faut savoir découvrir, sans d'ailleurs creuser trop fort, parce que c'est très simple, où se trouve l'essence de l'âme. Parce qu'on ne prie pas avec son affectivité, on ne prie pas avec son raisonnement. On peut prier, bien sûr, avec le raisonnement. On peut prier avec l'affectivité. On peut prier avec l'imaginaire. On peut prier avec tout. On peut prier uniquement avec le corps, avec un corps mort, déjà. Même un corps mort peut prier. Mais la véritable prière, moi je parle bien sûr de la prière de Jésus, la prière chrétienne est une prière divine, c'est une prière surnaturelle, c'est une prière de transformation divine, chrétienne, et nous appelons ça depuis 2000 ans la prière d'oraison. Pour pouvoir rentrer dans la prière de Jésus, il faut savoir découvrir l'essence de l'âme. Voilà. Donc, si on veut résumer 2000 ans d'explications des saints et des docteurs spirituels, il faut commencer par ça. L'essence de l'âme. Donc, même si quelqu'un ne sait pas ce que c'est que l'essence de l'âme, c'est pas grave. Il suffit simplement qu'il connaisse le mot. L'essence de l'âme. Ceux qui veulent approfondir, ils prennent la 75e question de la somme de saint Thomas d'Aquin. Et puis ils vont regarder comment on fait le catéchisme, vous allez dire, c'est pour les débutants, théologie, vous voyez, pour les débutants. Saint Thomas d'Aquin était très très indulgent pour les miséricordieux, il a fait la somme pour les débutants, ceux qui n'y comprennent rien. Alors dans la somme, c'est la 75e question, il explique ce que c'est que l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, c'est ce qui nous est commun à tous. Autant on peut être différent par la couleur des yeux, le tempérament, le caractère, vous voyez, mais l'essence de l'âme, ça, quelque part, ça nous est un peu commun. L'essence de mon âme et l'essence de votre âme se ressemblent assez. À d'autres passages, saint Augustin et différents pères de l'Église parle d'intellect à Jean. Aristote, déjà, le vieux païen. D'intellect à Jean. Il y a quelque chose dans notre âme qui ne dépend pas, qui ne se sert pas du corps. Nous sommes substantiellement l'unité personnelle du corps et de la vie spirituelle, de l'esprit vivant, contemplatif et extatique, est libre. Ça, c'est une personne humaine. C'est l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit vivant qui est en nous. Ça, c'est un être humain, vous voyez. Mais il y a quelque chose dans la substance de l'âme qui dépasse l'unité du corps. Et c'est ce qu'on appelle l'essence de l'âme. Alors, vous me direz, tout ça est bien compliqué, parce qu'attention, vous comprenez bien que quand je dis ça, je ne dis pas quelque chose de compliqué, je dis quelque chose d'extrêmement simple. C'est très important l'oraison chrétienne, la transformation, la sainteté, devenir un grand saint, un disciple de Jésus, un disciple du Seigneur. Un disciple du Seigneur, un membre vivant de l'Église catholique, un membre vivant du corps mystique vivant de Jésus vivant. C'est très important. Pour les baptiser, c'est très important. Comment est-ce qu'ils vont vivre du baptême? En faisant oraison. Et est-ce que c'est réservé uniquement à ceux qui peuvent comprendre que c'est que l'intellect agent, la substance de l'âme, l'ousia du péripsyché d'Aristote? Évidemment que non. L'oraison, c'est fait pour les pauvres, les petits, les simples, mais en même temps, les plus intelligents, ont trouvé la pointe la plus pure, la plus épanouie de la profondeur de leur intelligence. C'est de leur intelligence spirituelle. C'est la substance, l'essence de l'âme. Vous voyez, c'est pour ça que l'oraison, si vous expliquez l'oraison comme moi j'ai pu faire et que j'ai fait aussi, bien sûr, avec des handicapés mentaux, ils comprennent beaucoup mieux et beaucoup plus vite comment on fait pour entrer dans l'oraison que ceux qui ne sont pas handicapés mentaux. Ou mongolien, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi? Parce que l'essence de l'âme, pour un mongolien, un handicapé mental, pour quelqu'un qui n'a jamais eu aucune expérience, j'allais dire mystico, je ne sais pas quoi, ou d'intériorité, il n'a jamais été à des stages dans la lamasserie et tout ça, bon, il ne connaît rien, et bien pour lui, l'essence de l'âme, c'est évident. Pour nous, l'essence de l'âme, c'est évident. Alors voilà, donc on avait vu ça la dernière fois. L'essence de l'âme, c'est ce qui... Quand vous recueillez, vous essayez de découvrir la matière qui illumine tout ce que vous vivez, tout ce que vous regardez, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous rend libre, vous trouvez une source à ce relèvement continuel et libre. Cette source, ça s'appelle l'âme. Mais l'âme, elle est liée à ma chair et à mon sang. C'est mon âme. Mais il y a quelque chose dans l'âme qui est plus fort que l'âme, bien que l'âme soit la source de la vie. Il y a quelque chose qui est plus fort en mon âme. C'est l'esprit qui la dépasse, c'est l'esprit qui en fait sa substance. Et c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé dans mon âme cette essence de l'âme. Dès la première cellule, 9 mois avant ma naissance. Et l'oraison, vous voyez, c'est une chose extraordinaire. Parce que vous regardez par exemple à l'Annonciation. Closo utero, à l'intérieur, enfermé dans l'utérus. Revela viteum. Il s'est révélé. Dieu s'est révélé. À quelqu'un qui était enfermé dans l'utérus d'une mère. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est enfermé dans l'utérus d'une mère, avant la naissance, il perçoit les choses par l'essence de l'âme. Et donc il perçoit les choses surnaturelles et divines beaucoup mieux que nous. Alors peut-être qu'il ne faut pas faire des expériences de régression très modernes aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas faire ça, bien sûr. Mais n'empêche qu'il faut quand même avoir la simplicité d'une intelligence qui est native. D'une intelligence qui n'est pas abîmée, qui n'est pas refoulée. Cette intelligence, c'est pas l'intelligence, hein, mais c'est la substance, c'est l'essence de l'âme. Il y a quelque chose qui dépasse l'unité de mon corps, de mon âme et de mon esprit, et qui soutient. C'est extraordinaire, vous voyez, dans le monde spirituel. Regardez, quand vous avez Jésus, quand Jésus est mort, vous avez deux grands mouvements. Quand Jésus est à Gethsémani, vous avez deux grands mouvements. Il y a deux créatures, regardez. Vous avez Saint Jean qui se repose et s'enfonce dans son cœur, dans le cœur de Jésus. Il s'enfonce dans son cœur. Et vous avez l'ange à Gethsémani qui porte Jésus. Vous avez Marie, vous voyez par exemple à la croix, qui porte Jésus dans ses bras, la Pietà. Et puis vous avez le disciple bien-aimé qui s'enfonce en lui. Et ces deux mouvements d'unité appartiennent à l'essence de l'âme. L'oraison et la prière, c'est un petit peu de c'est d'apprendre à rentrer spirituellement, c'est-à-dire humainement, lumineusement et personnellement dans ce double mouvement, de l'amour, spirituel, de l'union spirituelle avec le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire avec l'intériorité vivante et éternelle de Dieu. Vous savez, nous avons été créés par Dieu comme des capacités, nous sommes, comme dit toute la tradition, et le catéchisme aussi, nous sommes capax dei. C'est beau, vous savez ça. On est capable de Dieu. C'est ce que dit Dieu à Sainte Catherine de Sienne, vous connaissez par cœur cette parole. Fais-toi, tu es néant, tu n'es rien. Alors, dans ton néant, fais-toi capacité, et en toi, je serai moi-même entièrement, à l'infini, torrent, torrentiellement moi-même, sans limite. Fais-toi capacité, en toi, je serai torrent, sans limite, absolument, en entier. Dieu nous a donné son Fils. En nous donnant son Fils, il nous a donné tout ce qu'il était. Parce que le Fils, c'est la substance du Père, c'est la substance de Dieu. L'essence de Dieu, première personne de la très sainte Trinité, c'est le Verbe, c'est le Fils, c'est l'essence de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image, voyez, en ce sens qu'il y a dans notre âme l'essence de l'âme. C'est tout à fait nous-mêmes, c'est tout nous-mêmes qui est dans l'essence de l'âme. Alors même si vous n'avez jamais trop touché, senti, compris, perçu ce que c'est que l'essence de l'âme, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est avec il suffit simplement de dire, Seigneur, c'est avec l'essence de mon âme que je vais te regarder. Je veux voir Dieu. Personne ne pourra voir Dieu si ce n'est par l'œil, le regard de l'homme qui peut voir Dieu, c'est l'essence de l'âme. C'est beau ça. Et la prière se fait avec la partie la plus profonde, substantielle, celle qui porte toutes les sources de la vie qui sont en moi. C'est l'essence de l'âme. Et en même temps, cette essence de l'âme s'enfonce à l'intérieur de moi. Les deux mouvements, vous voyez, de l'essence de l'âme. Comme ça, je l'aperçois. C'est l'alpha et l'oméga de toute ma vie actuelle. La prière, ça se fait avec l'essence de l'âme. C'est pour ça que nous avons deux yeux, vous voyez. Pourquoi? Parce que l'essence de l'âme, elle porte les sources de ma vie. Elle porte mon âme. Elle la porte. Elle fait qu'elle subsiste perpétuellement et qu'elle appartient moins au temps qu'à l'éternité, elle vient de Dieu. Et en même temps, le deuxième œil, l'essence de l'âme, s'enfonce en moi pour réaliser une immense transformation. La transformation de l'homme. Hein? Vous n'avez jamais pensé à ça, hein? Qu'on avait deux yeux à cause de ça. Parce que l'essence de l'âme, quelque part, elle est double en raison de son double mouvement pour voir Dieu. Il faut en même temps s'enfoncer en lui et en même temps, il faut porter Dieu. Fais-toi capacité. En toi, je serai tort. Donc ça, nous avons vu ça la dernière fois. Nous avons vu ça la dernière fois, que si tu veux prier, il faut que tu rentres, que tu prennes l'essence de l'âme, et qu'avec l'essence de l'âme, tu regardes Dieu. Et tu verras bien que si tu veux prier avec ton âme, et pas avec l'essence de l'âme, spontanément, qu'est-ce que tu feras? Tu vas fermer les yeux. Tu vas te recueillir comme ça. Et tu vas essayer de prier avec ton âme. Tu ne feras pas oraison. L'oraison chrétienne n'est pas une oraison bouddhiste, voyez. C'est pas une oraison de lumière. C'est une oraison de nuit. C'est une oraison de nuit de l'âme, la nuit aquasée de l'âme, pour que la lumière puisse s'illuminer dans mon intelligence, dans l'essence de l'âme. Plus je rentre dans la nuit aquasée de l'âme, plus ma perception essentielle s'illumine. Mon regard. Parce que vous voyez, souvent, les gens qui cherchent à vivre l'intériorité, ils cherchent surtout quoi? Ils cherchent à être illuminés dans leur âme. Mais comme ils cherchent à être illuminés dans leur âme, ils n'atteignent jamais la substance de l'âme. Et du coup, ils ne voient jamais Dieu. C'est le drame du bouddhisme. C'est la tragédie du bouddhisme. C'est la tragédie du zazen. C'est tragique. Tragique, mais tant mieux. Ils font au moins l'expérience qu'avec l'âme, on ne peut rien. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Alors, il faut faire oraison. Pour faire oraison, il faut simplement, et c'est ce qu'on avait dit donc la dernière fois, et on va reprendre à partir de là, il faut que dans la journée, le soir quand on s'endort, que sais-je, le matin quand on se réveille, quand on y pense, quand le Seigneur nous y fait penser, qu'on prenne l'essence de notre âme et qu'on fasse ne serait-ce que quelques secondes, une demi-seconde si vous voulez, comme vous voulez, vous allez, ne prenez pas les sources de votre vie, c'est-à-dire votre âme, mais prenez à l'intérieur de vous l'essence de l'âme et regardez, posez un regard sur Dieu. Je regarde et j'aime Dieu, je l'aime, puis c'est tout. C'est avec l'essence de l'âme que je peux éprouver ça. Je ne vois rien, mais j'éprouve quelque chose spirituellement et humainement. Dans un contact immédiat avec Dieu. C'est avec l'essence de l'âme, j'ai un regard de Dieu, j'ai un regard sur Dieu. Je porte Dieu et je m'enfonce en lui. Et c'est lumineux, hein. Faut pas dire qu'on ne voit rien du tout. On voit très bien. Mais on ne le voit pas avec l'âme. Vous voyez, on ne le voit pas avec le corps. On le voit nous-mêmes. Et c'est le problème de l'immaturité de l'homme. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde d'image, l'homme est aspiré non pas vers l'essence de l'âme, c'est-à-dire vers lui-même, mais il est aspiré vers l'imaginaire, vers le psychisme, vers ses névroses obsessionnelles. Alors tout son problème, il est concentré sur ses psychoses, ses névroses et ses blessures. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas facile de faire oraison. Oui. Ah donc, la dernière fois, on n'avait pas parlé d'oraison, mais on avait dit au moins cette chose. C'est que la porte, notre porte d'entrée dans l'oraison, c'est l'essence de l'âme et qu'il faut avoir un regard simple sur Dieu. Avec l'essence de l'âme. Oui, comme ça au moins j'aurais bien répété cette fois-ci. Et à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la prière? Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer dans l'oraison? C'est grâce à l'essence de l'âme, c'est grâce à notre regard tout simple sur Dieu que Dieu va pouvoir être tout à fait lui-même avec nous et que nous allons être tout à fait nous-mêmes dans la prière. Vous savez, Dieu a créé l'univers et il nous a créé nous aussi, bien sûr. Et ce qui fait marcher l'univers, ce sont les agents spirituels. Dans les agents physiques, c'est les agents spirituels qui font le moteur de l'univers. Un petit peu, vous voyez, comme nos appareils ménagers, si vous y mettez l'électricité, alors à ce moment-là, l'appareil ménager peut marcher. Oui, vous avez par exemple un mixeur, n'est-ce pas, hein? Vous avez un mixeur, vous mettez l'électricité dedans et le mixeur il marche. Mais pour que le mixeur marche, il ne faut pas seulement qu'il y ait l'électricité dedans, il faut qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur le bouton et vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr chaleur, c'est notre univers. L'électricité, c'est la prière. Et quand on appuie sur le bouton, c'est l'oraison. Mais s'il n'y a pas la prière, vous voyez, s'il n'y a pas l'intellect agent, s'il n'y a pas l'essence de l'âme, s'il n'y a pas l'esprit pur angélique, s'il n'y a pas le monde de la contemplation, l'univers est en panne. Il n'y a plus d'électricité. L'univers ne sert plus à rien. Exactement comme un appareil énergétique, où il serait impensable que l'électricité puisse désormais passer. L'univers sans la prière n'existe plus, ou du moins, il existe, mais il est promis au néant, éternellement. Tandis qu'avec la prière, il est promis, au contraire, à la transformation. Et avec le mixeur, vous transformez la soupe. C'est évident. Et l'oraison est un travail. L'oraison est un travail de transformation. Un monde nouveau. Voici que je crée un monde nouveau. L'homme n'est pas pour rester bête, et s'anéantir dans la corruption. Il est fait au contraire pour être le moteur de l'univers et pour être le source en Dieu, avec Dieu, mais la source quand même, libre de la transformation et de la création d'un monde nouveau. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Quoi ? Toi, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ça. Tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ça. Il faut naître d'une vie nouvelle. Voici que je crée un monde nouveau. C'est l'oraison qui fait ça. Vous voyez, vivre du baptême, c'est faire oraison. Alors, maintenant, pour faire oraison, tout ça c'est magnifique. Vous comprenez que c'est bien. Si vous avez le monde, un peu comme votre mixeur, si vous voulez, il est sur l'étagère, il sert à rien. Mais le monde, il est fait pour être mu, il est fait pour être, pour servir, il est fait pour être tout à fait lui-même. Il est tout à fait lui-même quand ça y est, quand je branche la prise. Ça, c'est la prière. C'est beau, ça. C'est beau. L'univers sert uniquement quand il y a la prière dedans. Sans la prière, sans l'esprit, sans le monde angélique, sans les hommes qui sont éveillés spirituellement dans l'essence de l'âme, l'univers n'a plus aucune signification. C'est beau de savoir ça, qu'on fait oraison, on est le nerf, on est l'électricité de l'univers. C'est normal parce que dès que vous priez avec l'essence de l'âme, dès que vous avez un simple regard sur Dieu, ce regard sur Dieu, il se pose forcément dans tout ce qui actue le diaphane de l'univers, et c'est normal que du coup il prend l'amplitude de l'amplification des soifs, de la signification profonde de l'univers dans son essence même, et du coup en plus il s'amplifie intensément à l'infini dans le monde spirituel du monde angélique, qui est aussi un monde créé, et donc il se surmultiplie et en quantité, et en qualité, et en substance, et dans le monde sans limite de la contemplation angélique, parce que c'est le propre de la contemplation de l'esprit pur, d'être sans limite, dans une vastitude incroyable, qui ne s'arrête jamais. Parce que Dieu, lui, n'est pas dans une vastitude sans limite, hein. Dieu est absolu. C'est tout à fait autre chose. Et du coup, le monde angélique, dans cette vastitude sans limite, s'intègre dans les attributs divins, qui sont eux absolus. Et donc notre prière prend du coup, grâce à cette immense transformation, répercussion à l'intérieur de Dieu, des dimensions qui sont inconcevables à l'humanité. La simple prière de la petite goutte d'un être humain transforme tout le créateur de Dieu pour l'éternité. La prière est quelque chose d'immense. Un homme qui ne prie pas, un être humain qui ne prie pas, vous vous rendez compte? C'est effroyable. Mais alors voilà, c'est bien sûr que tout le monde prie, bien sûr que tout le monde prie. On prie, on va dire « Je vous salue Marie », on va dire « Notre Père », on va aller à la messe, on va aller à une liturgie, on va penser à Dieu, on va méditer un mystère du rosaire. Par exemple, on va méditer Gethsémani, par exemple, on va méditer un mystère du rosaire, on va méditer. C'est une prière, on va supplier. On va allumer, on va faire des gestes, on va se mettre à genoux, on va allumer une bougie, on va faire des prières. C'est très bien de faire des prières. Mais l'oraison, mais la vraie prière, la prière chrétienne, la prière spirituelle et divine, surnaturelle de la grâce sanctifiante. C'est très bien, il faut prier. Mais toute prière, elle est faite pour qu'on rentre dans l'oraison. C'est pour ça que quand Saint Thérèse d'Avila a fait son traité des sept demeures de l'oraison, qu'il y a sept grands moments dans la prière qui se réalisent avec l'essence de l'âme, il y a sept grands déploiements, il y a sept grandes maturations de la prière chrétienne, et personne n'ira au ciel s'il n'a pas atteint la perfection de la septième demeure. Et si vous mourrez et que vous n'avez pas atteint la septième demeure, tout le parcours que vous n'avez pas fait sur la terre, dans l'horizon, vous devrez le faire au purgatoire, dans la voie purgative ou illuminative. Pour ça, je trouve ridicule, quelquefois, ces enterrements où la personne, on sait bien qu'elle n'a jamais prié, on dit, mais elle est au ciel, elle est en Dieu. Attends, elle est en Dieu, d'accord? Mais elle est au ciel, sûrement pas. Sûrement pas. Dans 1000, 8 siècles, 7 ou 8 siècles, peut-être. De vie purgative et illuminative, mais quelqu'un qui n'a pas fait oraison sur la terre, comment voulez-vous qu'il rentre dans la vision béatifique? C'est strictement impossible. Alors bien sûr, on veut encenser la famille, il était merveilleux, il n'a fait que du bien, tout ça. Il n'a fait que du bien. S'il n'a pas prié, il n'a rien fait. Il s'est moqué de Dieu, il s'est moqué de l'univers, il s'est moqué de lui-même, il s'est moqué des hommes. Le premier commandement, tu seras uni à Dieu. Les autres ne servent strictement à rien. Si on ne respecte pas celui-là, tu feras oraison. C'est sûr, hein? Alors, dans les 7 demeures de l'union transformante, dans les 7, dès qu'on va appuyer sur le bouton pour faire marcher l'ensemble de cet organisme extraordinaire de l'oraison, de la transformation surnaturelle de l'homme en Dieu et de l'univers à travers la grâce sanctifiante, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu comme la crème chantilly, hein, vous battez, puis ça commence à se mélanger, hein, le jaune et le blanc de l'œuf, et puis vous mélangez un petit peu tout, première demeure, voyez. Et puis après, ça commence à devenir un petit peu compact. Pour rajouter du sucre, deuxième demeure. Puis après, tiens, ça commence un peu à mousser, troisième demeure. Ah, ça commence à devenir solide, quatrième demeure. Eh oui, quatrième demeure, vous savez, comment est-ce qu'on fait pour faire la... ça commence à devenir solide, quatrième demeure. Hein? Et puis alors maintenant, vous y allez beaucoup plus, là, fort, et vous insistez bien, et même vous pouvez retourner le pot, hein? Pour retourner le plat, ça tombe pas. Cinquième demeure. C'est extraordinaire, ça. Hein? C'est la transformation de notre univers, la transformation de l'essence de notre âme, se réalise au fur et à mesure qu'on fait oraison. C'est extraordinaire, ça. Hein? Et on en fait l'expérience, parce que vous comprenez bien que si on vous retourne et que ça tombe pas comme la bouse d'une vache, c'est quand même, vous vous en rendez compte. Parce que quand vous recevez une bouse de vache en pleine figure, je veux dire, vous vous en rendez compte aussi. Hein? Quelqu'un qui ne prie pas, qui ne fait pas oraison, hein? Ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? La bouse, elle vous tombe dessus, hein? Direct. Alors qu'il fasse oraison. Eh oui, parce qu'à ce moment-là, arrivé à la cinquième demeure, vous voyez, ce sera, non seulement ça ne tombera pas dessus, mais en plus, ce ne sera pas de la bouse. C'est beau, ça, oui. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors bon, tout ça, bien sûr, je sais bien, pendant ce temps-là, je ne vous explique pas comment on fait oraison. De toute façon, pour les... Dans les saints, que ce soit Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, Saint François de Sales, Saint Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, les pères Saint Cassien, les pères du désert et tout ça, nous avons toujours, parce que c'est dans l'Écriture bien sûr, mais aussi parce que Jésus l'a enseigné à ses disciples, et aussi parce que Moïse l'avait déjà enseigné, et ainsi que les nations d'Israël, il y a 7 grands moments, dans l'oraison. Bien sûr, ces 7 grands moments impliquent aussi, quelque part, quelque chose de parfait, d'accompli, la 7e demeure. Ces 7 moments, bien souvent, les chrétiens qui ne sont pas trop habitués à l'oraison, ils se disent, oulala, peut-être que je serai arrivé à la 7e demeure du mariage spirituel dans 40 ans. Peut-être que je vais arriver à la 4e demeure de l'union transformante, de l'oraison, peut-être y arriverai-je dans 3 ou 4 ans, avec beaucoup d'efforts. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que c'est enseigné dans certaines écoles de spiritualité. Mais vous sentez bien que c'est pas juste, c'est pas vrai. Les sept demeures sont présentes au départ. Mais c'est sûr que le centre de gravité de la transformation qu'on est quand Dieu est là, et que le centre de gravité de la transformation se trouve davantage dans la troisième demeure à un certain moment, dans la cinquième demeure à un autre moment, ou dans la première demeure à un moment, même à l'intérieur d'une seule, une heure, quand vous choisissez de faire oraison pendant une heure, par exemple. À certains moments, vous serez vraiment à vous bagarrer contre des trucs énormes. Vous serez dans la première demeure. Vous serez à vous bagarrer contre des trucs énormes, des pensées énormes. Des compulsivités effroyables. Vous voyez ? Bon, ben vous serez dans la première demeure. Voilà. Voilà. Et à un moment, vous serez dans des distractions. Vous partez là, vous allez faire du vélo, quoi. Donc, vous allez faire du vélo, vous allez avoir des distractions, des machins, trucs. Bon, vous serez dans la deuxième demeure à ce moment-là. Bon, ben, vous reviendrez à l'essence de l'âme pour avoir un simple regard sur Dieu. Puis petit à petit, ça va simplifier. Vous allez avoir l'intuition quand même qu'il y a une communion avec Dieu. Troisième demeure. Oui. Et puis ça va durer. Et puis à un autre moment, paf, comme s'il y avait quelque chose qui se rassemblait à l'intérieur de vous, un recueillement qui se fait sans que vous fassiez d'efforts, et vous êtes bien, tiens, pendant 4 minutes, j'ai pas fait d'efforts, mais j'étais bien. Ben, c'était pacifiant, il y avait un recueillement presque automatique, vous voyez, je fais exprès d'employer des mots qui sont pas très spirituels. Bon, quatrième demeure. Voilà. Et je vais même avoir, à l'intérieur de l'essence de mon âme, comme une espèce d'emportement dans la lumière, c'est comme si d'un seul coup, je comprends ce que c'est que le mystère de l'incarnation, mais de l'intérieur de l'incarnation du Seigneur. Ah, cinquième demeure. Et à un certain moment, je vais avoir bon, je serai totalement, vous savez, c'est difficile, ça m'est difficile pour vous de le décrire, mais n'empêche que je serai totalement, pas consciemment, mais presque, en train d'intégrer tout le mal qui s'est fait dans le monde depuis le début de la fondation du monde jusqu'à la fin du monde, comme si ça s'intégrait en moi, comme si ça s'intégrait en moi pour être dissous. Sixième demeure. Et à certains autres moments, cette dissolution fait qu'il n'y a plus que la prise de Dieu elle-même qui saisit la moindre parcelle tachyonique, cellulaire de mon corps. Sixième demeure, septième demeure, l'union transformante. Tout ça, toutes ces choses-là, quelquefois, c'est un flash d'un centième de seconde dans la septième demeure. Vous comprenez, je fais oraison. Il y a toujours les sept demeures dans l'oraison. Mais c'est vrai que petit à petit, au fur et à mesure que j'avance dans l'oraison, si je donne 2 heures d'oraison par jour au Seigneur, disons, allez, 3 heures si vous voulez. Bon. Allez, 2 heures si vous voulez. Bon. Pour ceux qui sont extraordinairement fatigués, et très malades, et totalement corrompus, 1 heure. 1 heure d'oraison. Attends, il y a des gens qui sont baptisés, moi je connais des gens qui sont baptisés qui ne font pas oraison, hein. Même pas 1 heure par jour, même pas. J'en connais, hein. J'en ai vu, hein. Ils disent, moi je suis chrétien, j'ai baptisé, nanana. Vous faites oraison 1 heure par jour? Ah non. C'est quoi? Ah bon? Mais j'en connais, c'est vrai, c'est invraisemblable. On croit rêver. C'est vrai, c'est comme, je sais pas, une vache qui dit, moi, manger de l'herbe, je sais pas ce que c'est. Alors je mange du papier Figaro rempli de gasoil, c'est ce qu'ils font d'ailleurs aux États-Unis. Ils prennent du papier journal rempli de gasoil, ils donnent à manger aux vaches. Et c'est parce que c'est de l'herbe. Ah ben je suis baptisé, oraison, ben 1 heure par jour, 1 heure par jour, 1 heure par jour, je vais faire oraison, je vais donner 2 heures. Allez, bon, pour simplifier, je fais 1 heure, mais vous ferez 2 fois 1 heure par dans qui compte, vous savez, dans l'oraison. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la qualité, de leur raison, c'est la quantité. Oui. C'est la quantité qui fait la transformation. Oui, parce que plus vous appuyez longtemps sur le mixeur, plus la mousse prend. C'est pas là. Bon, bien sûr, vous êtes prié quand même de bien mettre le truc pas en dehors de la crème. Sinon, ça prend pas. Bon, on est d'accord, faut faire raison, pas complètement, de manière stupide. Vous n'avez pas à faire marcher votre raison dans le cœur de Lucifer. Non, non, vous allez faire raison dans le cœur de votre l'essence de l'âme, tandis qu'elle a un regard sur Dieu. C'est sûr, c'est sûr. Mais n'empêche que c'est la quantité qui compte. Vous voyez ce qui fait comprendre. Et pourquoi est-ce que Jésus a voulu, depuis, il avait déjà prévenu Adam et Ève, puisque c'est marqué dans le livre de la Genèse, si on le prend en hébreu, je donnerai mon fils à manger sous forme de pain. C'est ce que dit Moïse aussi. Le Messie sera l'incarnation de la deuxième hypostase du nom d'Élohim, il donnera à manger sous forme de pain. Dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur dit ceci, mon corps, prenez, recevez, accipitez, et manducate, recevez. Mangez-en tous ceci, mon corps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Regardez comme c'est beau. C'est du pain. C'est du pain. Une goutte d'eau. Qu'est-ce que c'est qu'une goutte d'eau? C'est rien, une goutte d'eau. Et dans la goutte d'eau, la simple goutte d'eau, celle qu'on met dans le calice, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement d'alliance. Qu'est-ce que c'est que cette goutte d'eau? Cette eau, goutte d'eau qui vous porte la divinité éternelle et incréée d'avant la fondation du monde dans le baptême. Regardez quand les sacrements, Dieu a voulu passer par quelque chose d'extrêmement simple, une goutte d'eau, du pain, du vin. Une matière. Qu'est-ce qui fait la matière? La matière, c'est pas sa qualité qui fait la qualité. C'est pas la qualité, c'est pas la substance qui fait le bonheur de la matière. Ce qui fait le bonheur de la matière, ce qui fait l'importance de la matière, c'est sa quantité. La matière, c'est de la quantité, ça a un certain poids. C'est limité dans une certaine quantité. C'est ça la matière. C'est la plus petite, c'est tout petit, finalement, une goutte d'eau, qu'est-ce que c'est? Du pain. Et Dieu a voulu rentrer substantiellement dans du pain, essentiellement et surnaturellement, et en entier dans une goutte d'eau. Vous vous rendez compte? Par le baptême, c'est ce qu'il fait. Ça dure l'espace d'un instant, c'est vrai. Mais il passe quand même par cette goutte d'eau pour se livrer entièrement toutes les intimités éternelles et incréées d'avant la fondation du monde, de la très sainte Trinité, qui s'investissent dans l'essence de votre âme au jour, à l'instant du baptême. Ça passe par une goutte d'eau. Pour nous faire comprendre que nous, qui sommes plus qu'une goutte d'eau, qui sommes plus que du pain, eh bien Dieu va servir de nous pour se donner tout entier à nous, en permanence, pas l'espace d'un instant ou d'une transsubstantiation ou d'un sacrement, mais en permanence, d'une manière subsistante, essentielle et éternelle. Tout en faisant que nous sommes encore dans le temps. Voilà pourquoi Dieu a créé l'être humain. Vous ne saviez pas ça, hein? Souvent les gens ne savent pas, c'est ce qu'explique Saint Ignace de Loyola. Il dit, si vous voulez savoir pourquoi vous avez été créé, c'est pour faire oraison. Il n'y a pas d'autre finalité à la création de tout l'univers. C'est extraordinaire de se trouver dans la finalité de l'univers et dans sa propre finalité. C'est beau, ça. Et en plus, c'est facile à comprendre que c'est essentiel, cette table de tir. Mais vous voyez, c'est la quantité qui compte. L'oraison, c'est le temps que je vais donner, c'est la quantité de temps que je vais donner qui fera la capacité, la possibilité à l'oraison d'être tout à fait elle-même. Donc je vais décider de faire oraison. Alors vous voyez, bien sûr, on pourrait dire, il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des... comment est-ce qu'on va faire? Moi, je sais pas, moi je suis pas spirituel, hein, je suis pas moine. Hein. D'accord, le père là-haut dans sa montagne, il est ermite, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il prie, d'accord, pour lui c'est facile, mais nous on n'y comprend rien. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode? Et tout ça. Alors, bien sûr qu'on peut toujours donner des conseils. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de méthode. Mais on peut donner des conseils. Alors moi, le conseil qu'on donne habituellement, c'est que, premièrement, il faut décider de donner une certaine quantité de temps à Dieu chaque jour. D'accord? Vous me suivez? C'est une décision qu'on prend. Celui qui décide de ne pas donner un temps précis à Dieu chaque jour, ça veut dire qu'il s'est arraché de la grâce du baptême. Il n'est plus baptisé. Ou du moins, il a flanqué, j'allais dire, son mixeur à la poubelle. Il y a toujours le mixeur, mais il est à la poubelle. C'est pas compliqué. Je vais décider de vivre de mon baptême, d'accord? Je vais décider de vivre humainement. Je vais décider de vivre de mon origine et de ma fin. Je vais décider d'être essentiellement moi-même. Je vais décider d'entrer dans ma vocation, ma mission. C'est une mission surnaturelle. C'est vrai. C'est une mission humaine, pleinement humaine. C'est une mission incarnée. Donc je vais décider de donner, je vais me donner une règle. Je vais librement donner. Vous voyez, c'est pour ça que je peux très bien être mongolien et handicapé mental, parce que l'handicapé mental, c'est peut-être pas qualitatif son truc, mais donner du temps, il le donnera, vous savez. La quantité, tout le monde peut le faire. L'eau, c'est de la quantité. Vous connaissez l'histoire de Sainte-Gertrude, qui dit voilà, il y avait le sablier, il y avait ces gros sabliers qu'on avait au Moyen-Âge, vous savez. Elle dit ben voilà. Voilà, pendant la prière, elle renverse le sablier, alors ça coule. Alors, c'est un sablier, son sablier est coulé pendant une demi-heure, hein. C'est un truc qui faisait une demi-heure. Bon, très bien. Alors, elle a renversé son sablier, et puis elle est restée dedans, dit Seigneur, pendant une demi-heure, ma prière, c'est le sablier. Voilà. Et autant qu'il y a de petits grains qui tombent comme ça pour faire le sablier, autant tu fais transformation à l'intérieur de moi et dans l'univers, et dans les êtres humains. Voilà. Voilà. Et elle a eu la révélation plus tard. Le Seigneur lui a dit, tu te rappelles quand tu as fait le sablier, j'ai converti plus de 200 000 âmes. Elle n'avait rien fait du tout. Elle avait mis le sablier, c'est tout. Voilà. Le conseil évangélique, le conseil de la Bible, le conseil du bon sens, le conseil simple, c'est prenez le sablier. Vous prenez le sablier une fois par jour, il faut donner du temps à Dieu. Mon vieux père spirituel disait, c'est très simple, si vous voulez faire oraison, voilà, eh bien, vous décidez de donner du temps à Dieu. Alors, vous commencez, et quand vous commencez, vous dites, je ne m'arrêterai pas de rester là, dans ce temps que je donne à Dieu seul avant 50 minutes. À moins 10, je reste avec Dieu jusqu'à 8h moins 10. Mais ce temps-là est donné à Dieu. Ce qui se passe dedans, je m'en fous. C'est le temps qui est donné à Dieu. Et c'est extraordinaire cette histoire de quantité. La prière n'a rien à voir avec la qualité. La prière, c'est faire avec l'essence de l'âme. La qualité, c'est pour les orgueilleux, vous savez. Et spirituellement, l'orgueilleux, ça donne Lucifer. Ah, moi, j'ai une prière, une qualité. Même si c'est un désastre pendant 50 minutes, c'est un désastre. C'est excellent. Si pendant les 50 minutes, c'est un désastre,
Eh bien, c'est excellent.
Pourquoi ? Parce que tu as donné 50 minutes à Dieu. Eh oui, c'est un désastre pour toi, c'est un désastre pour ton âme, mais c'est pas un désastre pour la transformation, parce que si c'est un désastre, qui te dit que c'est pas la sixième demeure ? Hein ? T'en sais rien ? C'est pas à toi d'en juger, ça t'appartient pas. Tu as donné ce temps à Dieu, Dieu y fait et se réalise la transformation. L'oraison, c'est la liberté qu'on se donne à nous et au Seigneur et à l'univers de ce que se réalise la transformation surnaturelle, le monde nouveau. Et il y a cette transformation, et il y a effectivement petit à petit une maturation, une transformation qui va jusqu'au mariage de corps, de l'âme et d'esprit avec toute l'intériorité divine de Dieu, d'abord la création du monde. Donc vous voyez, donc premièrement, il faut donner du temps à Dieu, il faut le faire régulièrement, il faut que ce soit assez de force, assez d'attention, assez d'amour, assez de spiritualité, assez de liberté pour que ce temps-là qui va durer à 60 minutes, bon, c'est 10% d'autres efforts qu'on doit faire, à savoir faire qu'on ne soit pas trop en dehors de Dieu. Comment est-ce qu'on va faire? Ah, souvent les conseils vont dire, mais c'est très élémentaire ce que je vous dis là, le conseil c'est dire, il faut la veille au soir, c'est des conseils, hein, c'est pas une méthode, mais la veille au soir, je vais décider déjà la veille au soir, qu'est-ce que je veux recevoir dans l'oraison comme transformation. Oui, par exemple, je dis voilà, la veille au soir, je vais m'endormir, je dis Seigneur, demain, la transformation divine dans laquelle je veux rentrer librement, si tu le veux bien, pendant l'oraison, c'est de la découverte de la manière dont Dieu a vécu intérieurement l'humilité dans le Christ, en s'incarnant. Vous pouvez le soir, vous allez dire, bon, je vais prendre un des 20 mystères du rosaire. Je vais méditer, c'est une méditation, c'est pas une oraison, c'est une méditation. Je vais méditer, hein, je vais lire, allez, pendant le mystère du rosaire, par exemple, Gethsémani. Bon. Hein? Je prends au hasard. Alors, il y en a 20. Alors donc, je vais prendre Gethsémani, par exemple. Je vais méditer ce soir, je vais méditer le mystère du rosaire, en disant, voilà, tout ce qui peut se transformer en moi avec les fruits de ce mystère, c'est pour demain, dans l'oraison. Vous voyez ? Parce que dans chaque mystère, il y a le fruit du mystère, les dispositions surnaturelles du mystère, il y a ce que Jésus a vécu, comment l'Immaculé a vécu ça, comment le Père, Dieu le Père a vécu ça à travers l'instrument tout simple de l'époux d'Immaculée Conception. Enfin, je médite de toute façon tout ça, vous voyez ? Je médite, je fais une méditation. La méditation, ce n'est pas l'oraison. La méditation, c'est une prière discursive, c'est une prière mentale. C'est, je découvre quelque chose, je comprends pas tout, mais quand même, c'est très, 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 très fort, la révélation. Donc, la veille au soir, c'est la veille que je conçois. Vous voyez, quand vous concevez un enfant, c'est la veille que je conçois, c'est le matin que l'enfant va naître. Je vais concevoir la veille au soir ce que demain, dans l'oraison, va pouvoir naître, vous voyez, et je vais me lever du coup. Il va y avoir toute une nuit qui va se passer. On appelle ça, dans le catéchisme spirituel, on appelle ça la préparation lointaine. C'est la veille au soir. Alors, bien sûr, la préparation lointaine, elle peut durer. Moi, je me rappelle, ma maman, mon papa aussi, toujours, chaque soir, les préparait. tous les soirs, c'était dans leur lit en plus. Alors, ils préparaient, il y avait le truc qu'ils préparaient pour le lendemain. Tous les soirs, nous on a toujours vu ça tous les soirs, nos parents toujours. Et puis après, une fois qu'ils avaient fini, tous les enfants venaient autour du lit, on se mettait à genoux, on faisait la prière du soir ensemble, et puis après tout le monde allait se coucher. Voilà, alors il n'y avait pas de problème, hein. Enfin, quand je dis il n'y avait pas de problème, pour l'oraison. Alors, oui, mais parce que ça s'appelle préparation lointaine, préparation lointaine, préparation. Le lendemain, vous vous réveillez, attendez, vous vous êtes endormi quand même avec ça. Vous êtes endormi avec ça, vous avez dit, Seigneur, voilà, toute la nuit, dans la nuit aquasée de mon âme, parce que c'est le coup, hein, c'est que c'est, pour le coup c'est ça, j'ai mis le germe dans la nuit aquasée de mon âme pour que le lendemain matin, ça puisse se féconder l'essence de mon âme. Bon, et donc je vais porter ça, je vais avoir dans la journée quelques regards simples vers Dieu avec l'essence de mon âme et avec ce germe que j'y ai mis la veille au soir, c'est ce qu'on appelle la préparation immédiate. Et puis après, à un moment arrive l'heure de l'oraison, mon heure habituelle. Remarquez, l'idéal, évidemment, c'est de commencer son oraison le matin. C'est normal, c'est l'idéal à ce moment-là, c'est sûr. Mais tout le monde ne peut pas le faire, c'est pas grave. On attend l'heure de l'oraison et c'est possible. Et on va commencer à donner ce temps avec ce regard de l'essence de l'âme qui porte le mystère Gethsémanie, c'est-à-dire cette espèce de très, 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 très grande union à la volonté du Père. Je vous assure que si vous faites ça, cette oraison-là, elle sera forcément dans les demeures de la vie illuminative et unitive. Vous serez entre la quatrième et la cinquième demeure, automatiquement. C'est l'union de volonté. Mais vous voyez, il y a une préparation. L'oraison, c'est quelque chose de très facile, à condition bien sûr que ça ne va pas vous épuiser. Vous voyez, quelqu'un qui serait baptisé, qui serait chrétien, et puis qui dirait, voilà, moi je suis déprimé, c'est difficile, j'ai des problèmes, je vais résoudre mes problèmes en dormant un peu plus, quoi. Hein. Je vais me reposer. Ce serait pas bien qu'il fasse ça. Parce qu'il est bien évident que l'oraison repose bien plus que le sommeil d'un dépressif. Mais heureux ceux qui ont leur nom inscrit dans les cieux, c'était l'oraison de la louiatique de l'Évangile. Le Saint-Esprit repose en paix en eux. Le Saint-Esprit, voyez, va pouvoir agir du dedans de ce germe qui est né dans l'essence de l'âme le matin, et vous allez donner une heure pour que le Saint-Esprit puisse opérer dans l'esprit de science, l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Vous voyez, on avait terminé la dernière fois là-dessus. Il va se saisir de ce temps-là avec ce fruit surnaturel que Jésus y a déposé dans son mystère, tandis que vous vous y êtes unis depuis la veille jusqu'à la résurrection du matin. Et du coup, l'Esprit Saint, vous allez rester immobile. Le temps est entièrement donné, vous n'avez pas. Et le Saint-Esprit va pouvoir être en repos en vous. L'Esprit Saint, vous voyez, il est extraordinaire parce que si vous laissez au premier moteur immobile, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le premier moteur immobile, c'est Aristote qui appelle Dieu le premier moteur immobile. En Dieu, il est immobile. Dieu est immobile. Mais en même temps, il fait mouvoir tout. C'est lui qui fait tout mouvoir. Donc quand à l'intérieur de l'oraison, l'Esprit Saint est immobile, alors à ce moment-là, il va pouvoir vous faire mouvoir dans toutes vos puissances par les dons du Saint-Esprit. La mobilité du Saint-Esprit, c'est les sept dons. Mais c'est à condition que vous puissiez laisser à l'Esprit Saint la possibilité d'être entièrement immobile dans l'essence de votre âme pendant ce temps-là. Alors, l'immobilité du Saint-Esprit va pouvoir faire mouvoir toutes les puissances de votre âme dans les dons du Saint-Esprit. Il va pouvoir mettre des capteurs divins, le capteur de l'esprit de science, cette réceptivité divine de Dieu à l'intérieur de vous, qui va calmer vos sensations, qui va calmer tout ce que vous ressentez. C'est l'esprit de science qui fait ça. Et l'esprit de science, c'est extraordinaire. Quand vous faites oraison, pendant cette heure-là, vous allez voir, tiens, vous allez être plus pacifique dans vos sensations. Plus amorti, si vous préférez, dans vos sensations. Plus adouci dans vos sensations. Vous serez plus détaché des choses, des blessures, de la terre. Vous serez plus... En même temps, le Saint-Esprit vous attache à l'unité du Père et du Fils. Mais vous ne vous en rendez pas compte, vous ne le ressentez pas, puisque c'est dans l'essence de l'âme. Mais quand même, l'essence de l'âme irrigue votre chair, votre sang, vos instincts et tout ça. Et du coup, vous allez peut-être pleurer. Parce que quelque part, il y a un détachement qui se fera. Vous savez pas pourquoi vous pleurez. Mais le Saint-Esprit, lui, et vous allez avoir ces sentiments de tristesse dans votre âme, dans votre ressenti. Mais en même temps, vous allez éprouver un apaisement des sens. C'est l'esprit de science qui fait ça. Pendant cette heure-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Les trois grands dons du Saint-Esprit qui agissent surtout au début, c'est ça. C'est l'esprit de science, l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence va apaiser votre compréhension des choses. Au lieu de méditer ce que vous avez médité la veille, vous n'avez pas compris, vous avez compris quelques petites choses, vous avez compris que c'était très important, vous avez compris que c'était très profond, vous avez compris aussi que vous n'avez pas tout compris. C'est déjà pas mal. Bon, eh bien, l'esprit d'intelligence va se saisir de tout ça, va se saisir de votre intelligence, va apaiser votre raisonnement. Vous n'allez plus méditer, vous n'allez plus raisonner. Mais des clartés vont se mettre dans votre intellect agent, des clartés, des réceptivités divines vont se mettre dans votre intellect agent, et du coup vous allez moins raisonner, vous allez moins méditer. Votre intelligence ne va pas partir dans des essais de compréhension, ce qui était dit, pour passer d'un truc à un autre. Vous allez faire moins de théologie mystique pendant l'oraison. Donc votre intelligence va s'apaiser dans les clartés du don d'intelligence. Et bien vous allez avoir des lumières, vous allez percevoir, mais oui, ce calme qu'il y a eu de l'union de volonté du Christ, du Verbe, avec la volonté du Père dans l'éternité, ça s'est passé à Gethsémani, ça a fait sortir non pas des larmes, mais des caillots de sang. Cette pacifique union de volonté, et vous allez le percevoir dans la clarté de l'esprit d'intelligence. Vous allez peut-être avoir aussi à l'intérieur de l'oraison des clartés qui viennent de Dieu, qui viennent de Dieu et qui dépassent complètement les capacités de l'intelligence humaine, même chrétienne, de la méditation et de la théologie, évidemment. Par exemple, vous pouvez très bien avoir des clartés très très grandes, je ne sais pas moi, sur miraculeuses. Je parle ici miraculeuses, par exemple sur l'avenir. C'est comme ça qu'on voit Anne-Catherine Emmerich, par exemple, avoir des clartés extraordinaires sur la manière dont l'Antichrist doit être anéanti par l'Église. C'est l'esprit d'intelligence, c'est le don d'intelligence qui donne quelquefois ces clartés, mais elle ne les regarde pas. Elle ne les regarde pas dans l'extérieur, elle regarde dans la manière dont Dieu le perçoit. Saint Jean, dans l'Apocalypse, il a eu des clartés que finalement il va décrire dans l'Apocalypse, qui viennent de l'esprit d'intelligence. Ouais. C'est clair, il les voit, il les comprend de l'intérieur de Dieu. Ah, c'est l'Apocalypse. Vous voyez, on peut effectivement, dans l'oraison, c'est possible qu'il y ait, de temps en temps, un apaisement du raisonnement. L'esprit de science va apaiser le sentiment, les sensations, les blessures, tout ça, ce qu'on ressent. Mais le raisonnement, ce n'est pas du ressenti, ce n'est pas le sens, ce n'est pas l'instinct, c'est le raisonnement, c'est notre désir toujours de raisonner, de raisonner, de raisonner. On se calme, deviens un peu plus mongolien, deviens un peu plus intelligent, rentre dans l'intellect agent, et dans l'intellect agent, la lumière du Saint-Esprit lui met un récepteur nouveau pour comprendre le monde surnaturel de Dieu. Tu vas moins raisonner, tu seras apaisé dans ton désir tout le temps de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Penser, penser à Dieu. L'oraison, c'est pas penser à Dieu. L'oraison, c'est être uni à Dieu. C'est laisser Dieu libre de me transformer. Et l'esprit de sagesse va calmer mon cœur. L'esprit de sagesse va donner une saveur va donner un certain apaisement, mais en même temps, voyez, en même temps, va faire monter les souffrances de mon cœur. Mais en même temps, ce qui va faire monter les souffrances de mon cœur, c'est un apaisement profond et savoureux du cœur profond, qui fait monter les souffrances de mon cœur. Mais il y a plus, il y a autant, disons, de saveur profonde de mon cœur que de souffrances qui en montent pour en sortir. À chaque fois qu'il y a les dons du Saint-Esprit, à chaque fois il y a une souffrance. C'est à ça qu'on voit que c'est un don du Saint-Esprit. Tous les dons du Saint-Esprit dans l'oraison purifient. Donc, par exemple, mon intelligence, je souffre beaucoup plus de ne pas arriver à comprendre, j'en souffre beaucoup plus, mais en même temps, je suis apaisé dans ma soif de raisonnement, je suis apaisé dans ma... Et je comprends de l'intérieur beaucoup mieux le mystère de Dieu. Je m'habitue, j'aime cette obscurité de ma compréhension raisonnante, j'aime, parce que du coup, je perçois beaucoup plus à travers le don d'intelligence... Ah, l'intimité intérieure du monde surnaturel de l'hypostase du Christ. Et finalement, alors, au fur et à mesure, je vais avoir raison, je vais avoir de plus en plus d'attirance vers la nuit obscure. Non pas parce que j'aime la nuit, mais parce que j'aime Dieu et je vois que je le comprends, je m'unis et je l'aime bien davantage à travers la nuit qu'à travers mes raisonnements, mes compréhensions et mes affections. Ou ma paix, ou mes énergies. Qui au contraire, je perçois de plus en plus que tout ça, ça m'en éloigne. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça, je vais donner donc mes 60 minutes. Et pendant ces 60 minutes, voilà, je vais être extraordinairement attentif à faire en sorte que ces 60 minutes soient entièrement sous la liberté du Saint-Esprit. Il n'y a plus que le Saint-Esprit. Il n'y a plus que Jésus, il n'y a plus que Dieu. Ah, bien sûr, si, voilà pour la préparation lointaine, voilà pour la préparation immédiate. Je rentre, je sais que c'est ça qui va se produire du début, première minute, jusqu'à la fin, 60e minute. Je rentre dans la première minute. Ça y est, l'oraison commence. Eh bien, si l'oraison commence, alors à ce moment-là, il faut évidemment que je fasse... Selon l'état dans lequel je me trouve, je suis complètement lié, selon l'état dans lequel je me trouve, je vais faire bien sûr des actes où je vais me rentrer en présence de Dieu avec un simple regard de Dieu sur l'âme, à partir de l'essence de mon âme, pour me plonger en Dieu. Et qu'est-ce que je vais faire? Selon l'état dans lequel je me trouve, je vais être obligé, parce que je suis en train de réfléchir à un problème mathématique. J'ai un problème mathématique, ça c'est pour les étudiants, vous savez. Un problème mathématique terrible. Comment est-ce qu'Einstein, qui fait oraison, Einstein décide de faire oraison. Il commence à faire oraison. Et pourtant, il a fait la préparation lointaine, il a fait la préparation immédiate. Il commence à rentrer dans l'oraison. Vous voyez? Alors voilà. Donc il va falloir, bien sûr, du coup, qu'il sache. Ce raisonnement qui l'obsède parce qu'il y a un problème à résoudre. Il faut qu'il comprenne, c'est vrai, le médecin et le psychiatre, comment est-ce que je vais faire pour aider cette personne? Je vais essayer d'être intelligent avec cette personne, je vais essayer de comprendre. Bon, il faut quand même qu'à un moment donné, il dépose ce fardeau et qu'il le donne et qu'il réfléchisse en disant, voilà, je vais réfléchir autrement à mon problème mathématique. Je vais utiliser mon raisonnement, ma recherche mathématique ou mon problème mécanique. Ça dépend si vous êtes mécano, je ne sais pas, tout ce qu'il peut y avoir comme un problème informatique. Comment je vais faire pour résoudre ma panne d'ordinateur? Bon, t'es là pendant toute l'oraison, les 5 premières minutes de l'oraison, il n'y a que ça, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, vous voyez, ça c'est la première demeure, vous voyez, la première demeure. Première demeure, c'est l'esprit occupé à lui-même, à quelque chose qui... C'est la recherche de l'efficacité, et il est pris dans une efficacité, vous voyez, il est pris dans une recherche d'efficacité, l'esprit, l'intelligence, dans cette espèce de raisonnement, et du coup, sa fécondité est arrêtée, est stérilisée, et donc dans un état de péché. C'est le caractéristique de la première demeure, c'est que je vis le péché. Je suis coupé de la fécondité de ma vie contemplative et je suis dans un truc où je suis enfermé sur moi-même. C'est la manifestation de l'orgueil, si vous voulez. C'est la blessure de l'orgueil qui fait ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette activité et je vais essayer d'aller vers quelque chose de plus sommaire, de moins cérébral, et je vais ouvrir les yeux. Je vais prendre un chapelet, je vais prendre un crucifix, je vais prendre une icône, je vais regarder, je vais dire tiens, je vais méditer, ou je vais essayer de me rappeler le film de Mel Gibson. Comment ça se passait à Gethsemane? J'essaie de me rappeler des choses visibles. Je vais me mettre en condition. Je vais m'imaginer comme si j'étais au jardin de Gethsemane, comme si j'étais caché à l'intérieur du cœur de Jésus, tandis qu'il était là. Je vais utiliser mon imaginaire, je vais utiliser mes sensations, je vais utiliser mes yeux, je vais utiliser ma mémoire. Je vais me mettre en situation de reprendre le germe que j'ai mis dans ma préparation lointaine la veille au soir pour je vais utiliser les choses les très élémentaires de mes sens externes, de mes sens, voyez, de mes yeux, de mon entendre les sons de cris du hibou et du vent tandis que la lune est en train de danser dans les étoiles à travers j'allais dire le Gethsemane, à travers tous les oliviers. Et on entend le craquement des feuilles. Jésus a transubstantié l'Eucharistie il y a quelques heures. Je vais rentrer dans le contexte, voyez, je vais rentrer et du coup je vais sortir du raisonnement. Je vais regarder ce qui se passe. Et du coup, avec mon essence de l'âme, je vais essayer de rentrer. Vous voyez, je peux faire ça. À un moment donné, il va y avoir, grâce à Dieu, je vais sortir quelque part, grâce à l'esprit de science. On va se calmer, on va sortir de notre orgueil, on va sortir de notre enfermement cérébral ou mental. Donc je vais faire, si vous préférez, c'est pour ça que si vous lisez le catéchisme de la vie spirituelle, vous verrez que la première demeure, c'est une oraison discursive. Voyez, vous allez discuter avec le fruit du mystère, avec le mystère de Dieu dans lequel vous avez décidé de rentrer auparavant. D'accord? Vous allez rentrer, vous allez dépasser la méditation. Vous allez discuter avec vous-même, vous voyez, vous allez rentrer. C'est l'oraison discursive. On est tellement pris par des tentations, quelquefois par des compulsivités effroyables du point de vue de l'instinct, en pleine oraison, au début. Des trucs complètement effroyables. Alors, très bien. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt méditer. Et pour méditer, quand je dis méditer, c'est ce que je viens de vous dire. Je vais me mettre en situation. Je vais me forcer, par des efforts tout simples, à regarder. Ben, peut-être que je peux prendre la Bible, je peux l'ouvrir, je peux lire tranquillement, lentement, et bien imaginer, bien me mettre en situation, comme si j'étais là. Vous voyez ? Première demeure. La deuxième demeure, c'est l'oraison affective. L'oraison affective, c'est quand on commence à vouloir non pas se battre contre le péché, mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'amour. Vous voyez ? Donc l'oraison affective, à un moment donné, vous dites, voilà, moi Seigneur, c'est l'oraison charismatique, si vous voulez. L'oraison de la communauté Emmanuel. Vous voyez ? Une oraison charismatique. Vous êtes tout seul et vous l'oraison des béatitudes, vous voyez ? C'est la deuxième demeure. Vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'imperfections vénielles, vous voyez ? Dans la première demeure, on se bagarre contre le péché mortel. Dans la seconde demeure, on se bagarre contre le péché véniel. Contre les imperfections, pas tout, oui, bon, ça va, si je pense un peu à mon ancienne copine, c'est pas méchant. Vous voyez ? On se bagarre. Donc, non, on va dire, non Seigneur, c'est toi que je préfère. Ah ben, je pense à ma fille, j'ai peur qu'elle tombe dans un précipice. Ah, et ça vient à ce moment, pendant l'oraison, ah non Seigneur, c'est toi que je préfère. Il y a ma petite fille dans un précipice, mais ça fait rien, c'est toi que je préfère quand même. Je saisis les affections, tout ce que j'aime. Ah, oh, j'aimerais bien prendre du fromage de gruyère fondu en ce moment. Ah ben Seigneur, c'est toi que je préfère. Vous voyez, je vais le louer, je vais remercier, je vais le bénir, je vais faire des actes de louange, je vais dire merci, je t'aime, je vais penser à ça, je vais mettre mon cœur dans son cœur, je vais m'engloutir dans son amour, je vais rentrer dans le feu de son embrassement amoureux, je vais le faire d'une seconde après l'autre, encore une autre, encore une troisième, encore une quatrième, et je vais le remercier, et le glorifier, et me remplir, et me laisser embraser, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à ce que je n'ai plus aucune imperfection affective. Il n'y a plus que Dieu que j'aime. Alors, quelquefois, il y a des gens qui peuvent faire oraison en louant comme ça, en remerciant intérieurement, vous voyez, avec l'essence de l'âme, jusqu'à ce qu'ils puissent le faire, non pas avec le cœur, mais avec l'essence de l'âme. Avec l'essence de l'âme, je t'aime. Avec l'essence de l'âme, je t'aime. Avec l'essence de l'âme. Deuxième demeure. Si je fais ça avec l'essence de l'âme, je vais passer à la troisième demeure. Je vous souhaite quand même que ça ne dure pas quand même pendant 47 minutes. Vous n'allez pas faire 47 minutes de louange quand même. Oh, c'est l'oraison. Hein? Donc à un moment donné, vous allez passer. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur l'essence de l'âme. C'est parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter de louer avec son psychisme. Lorsque la louange périphérique charismatico-mystique au dingo, c'est bien, mais c'est juste la porte d'entrée pour la louange affective spirituelle, puis dans l'essence de l'âme. Parce que dans la louange périphérique charismatico d'un bon, eh ben, on n'adore pas. On n'adore pas. On loue, mais on n'adore pas. À un moment donné, il faut qu'on loue, tout en étant sous l'entière dépendance de celui qu'on loue. À ce moment-là, ça devient une louange spirituelle. Puis après, c'est l'essence de l'âme. Ça devient surnaturel. Deuxième demeure, une transformation s'opère. C'est que mon cœur commence à être saisi d'intérieur et va participer à donner toutes ses énergies spirituelles et affectives à l'essence de l'âme elle-même. Troisième demeure. La troisième demeure, du coup, il y a quelque chose qui va se recueillir. Je vais essayer de me recueillir. Je vais essayer de me recueillir dans la liberté toute simple que j'avais dans la première cellule, 9 mois avant la naissance. Je vais essayer de me recueillir en Dieu. Et avec l'essence de l'âme, je vais m'unir à lui. Je vais faire tous mes efforts pour me calmer un peu. Et par exemple, si j'arrive déjà à la 13e minute et je commence à faire ça, vous voyez, je me calme, je me recueille. Et à un moment donné, dans ce recueillement, grâce à mon immobilité, l'immobilité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va donner son esprit de science, son esprit d'intelligence, son esprit de sagesse, et quelque part, il y a un recueillement qui va se faire automatiquement en 4e demeure. Et désormais, pendant le reste, de là jusqu'à la fin de mon oraison, 60e minute, je vais enfin être bien élevé avec Dieu. C'est lui. Continue la prière. C'est lui. C'est lui qui me recueille. C'est lui qui se recueille en moi. C'est lui qui agit. Et puis, quand le sablier a terminé ses 60 minutes, je vais faire mon devoir d'état. La préparation lointaine, la veille, la préparation immédiate, le matin, la préparation des premières, deuxième et troisième demeures de l'union des commençants, hein, on appelle ça les trois premières demeures, c'est pour commencer l'oraison, c'est les trois premières demeures commençantes, et après, dès qu'on est dans la quatrième demeure, l'oraison commence pour elle-même, l'oraison devient une oraison chrétienne, elle devient divine, elle devient surnaturelle, Et du coup, c'est formidable, on est très très content, mais pendant ce temps-là aussi, il faut que ce soit l'ensemble de l'organisme de l'univers, l'ensemble du ciel et de la terre, l'ensemble du Christ qui puisse être animé et transformé grâce à l'oraison, et c'est pourquoi il faut qu'il y ait quelque chose de vrai. Et pour qu'il y ait quelque chose de vrai, il faut qu'il y ait le fruit de l'oraison, que le fruit de l'oraison puisse se transférer comme vase communicant dans les trois puissances essentielles de mon âme, l'amour, la lumière et la liberté. Et c'est pourquoi je vais nourrir mon union avec Dieu contemplative par l'oraison, voilà qui est fait. Mais aussi dans ma journée, je vais unir ma volonté profonde par l'obéissance à la volonté de Dieu. Je vais obéir à Dieu pendant la journée. Je serai en communion de volonté avec ce que Dieu veut. Et enfin, je vais me nourrir des fruits des sacrements. J'irai à la messe. Je renouvelle, si j'ai pas pu aller à la messe ce jour-là, je communierai sacramentellement à l'Eucharistie, invisiblement et à distance, mais je dois aller à la messe tous les jours pour m'unir substantiellement à la transsubstantiation du Seigneur qui s'est donné sous forme de pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel chaque jour. Je dois aller à la messe tous les jours. Et si je ne peux pas aller à la messe, qui est bien évident, il est bien évident que ça arrive qu'on ne puisse pas y aller, parce qu'il y a le devoir d'État, il y a les vaches, il y a les ânes, il y a les souris, tout ça. Et donc, bon, et il y a les chats. Bon, et comme les chats ne vont pas courir les souris, c'est à moi d'aller derrière la souris aussi. Bon, ouais, parce que j'ai mal dressé mes chats. Bon, enfin bref, j'en passe des meilleurs. Voilà, donc du coup, eh ben, je vais à la messe. Bien sûr que je vais à la messe ici, et, ou alors vous pouvez aussi faire célébrer la messe en salle. Faut quand même, c'est vrai, si vous voulez faire une messe un peu bâclée, c'est quand même un quart d'heure, hein, une messe très bâclée. Hein. Et oui, il faut s'unir au fruit des sacrements, vous voyez, nous avons trois modes d'union. Notre liberté profonde, dans sa substance, s'unit à la transsubstantiation de chacun des sept sacrements. Il faut vivre des sacrements tous les jours, hein, c'est sûr, ça. Il faut vivre une vie contemplative, voilà pour l'oraison, c'est l'intelligence hein, qui s'unit à Dieu dans l'essence de l'âme. Et il faut s'unir à l'amour de Dieu, ça c'est l'obéissance qui fait ça.